Chapitre 2. Mais à sa sortie du pub, Agatha estima qu'il était grand temps pour elle d'en savoir plus sur Garrett Craven. S'il ne travaillait plus, il devait disposer d'une fortune personnelle ou exercer d'autres activités pour être en mesure de s'offrir ses services. Elle trouva son adresse et localisa la rue sur son iPad. Comme c'était près du pub, elle décida de s'y rendre à pied. Garrett vivait dans une ruelle, donnant sur la rue principale, constituée de maisons du XVIIe siècle dépourvues de jardinets et tassées les unes contre les autres, comme pour se soutenir mutuellement. Elle levait la main vers la sonnette quand une agréable voix de ténor lui parvint aux oreilles depuis l'intérieur de la maison. C'était « Donnez-moi des étoiles dans les yeux », un air des gondoliers, l'opérette de Gilbert et Sullivan. Agatha attendit la fin de la chanson puis sonna d'une main assurée. Garrett ouvrit. Quel charmant sourire il a, songea Agatha. C'est vous qui chantiez ? Demanda-t-elle. Oui, je fais de l'opérette en amateur, j'avoue. C'est mon péché mignon. Les hormones d'Agatha émirent un soupir de déception. Les gens qui utilisaient des expressions comme péché mignon étaient du genre à avoir des nains de jardin et leur salle de bain peinte en verre avocat. Entrez, dit Garrett, s'écartant pour la laisser passer. C'est à gauche. Agatha se retrouva dans un petit séjour. Comme chez Pixie, toutes les tables et tous les murs étaient ornés de photos de Garrett. Agatha comprenait qu'on expose des photos de famille, mais ne fallait-il pas être excessivement vaniteux pour avoir autant de photos de soi-même? Pourtant, pensa-t-elle, ça valait sans doute mieux que de ne pas s'aimer physiquement, ce qui était son cas à elle. Elle se rappelait avoir prié, enfant, pour se réveiller un beau matin avec des yeux verts et des boucles blondes.
Je fais partie de la troupe des Merchester Savoy Players, dit Garrett. Il faut que vous veniez nous voir. Parfois je chante et parfois je mets en scène. En ce moment, je mets en scène le Mikado.
Et une autre fois, peut-être, avez-vous eu vent de nouveaux éléments susceptibles de m'intéresser?
Bah vraiment. À l'évidence, il y avait beaucoup de chamaillerie parmi les interprètes. Côté diva, nous n'avons rien à envier aux troupes professionnelles.
Des divas? Qui, par exemple?
Il leva un sourcil et éclata de rire.
Tous, si vous voulez mon avis.
Burt, le défunt, a-t-il été à l'origine de certaines de ces querelles?
Laissez-moi réfléchir. Pixie voulait qu'on supprime la fumée verte parce que ça la faisait tousser. Burt l'a traitée de vieille rombière, ce qui l'a rendue hystérique.
Attendez que je me souvienne. Elle a hurlé « Ta femme, elle sait qui tu te tapes ?»
Et il a répondu
« Si j'étais marié à une connasse à moitié tapée comme toi, je pourrais avoir envie de tromper ma femme. » Mais vu que c'est pas le cas, tu peux aller... Bon, vous imaginez la suite.
Burt a eu des ennuis avec quelqu'un d'autre?
George Southern, le comique, avait l'intention de l'attaquer en justice. George avait mis un coussin péteur sur le tampon de la trappe, si bien que quand Burt a fait sa sortie au cours d'une répétition, il y a eu un gros bruit de paix. Il est revenu en fulminant comme l'ogre qu'il joue dans le spectacle et a balancé un coup de poing dans le nez de George. Pour finir, ça s'est arrangé.
Eh bien, ça en fait des suspects. J'ai perdu mon programme. Vous en auriez un pour moi?
Oui, tenez.
Il lui tendit un programme. La distribution n'est pas énorme, dit Agatha,
du moins en ce qui concerne les rôles principaux.
Celle qui joue la mère Hubbard s'appelle Bessie Burdock. Le script est sacrément décousu. Il y a une scène où la mère Hubbard fait entrer et sortir d'une grande chaussure en carton les gamines qui ont fait le numéro de claquette. C'est à ce moment-là que Jack lui tend des haricots et elle le chasse lui aussi. On oublie la tige de haricots magique. Jack est menacé par l'ogre et sauvé par le chaboté interprété par Pixie.
Dans un double rôle?
Oui, elle joue aussi le petit chaperon rouge.
Ça alors? Et qui jouait le loup?
Le loup a changé d'avis et dit qu'il refusait d'être associé à une nullité pareille.
C'est qui le loup?
John Hale, le professeur d'anglais du collège de Merchester.
Lui aussi s'est disputé avec Burt?
Oui, il lui a dit que le spectacle n'était pour lui qu'une manière de satisfaire son ego. Si vous vous rappelez bien, Burt fait une entrée et une sortie par la trappe, mais à part ça, il se contente de se pavaner sur scène.
Et ça ne fait pas partie de l'intrigue?
Eh bien, non.
Mais en tant que metteur en scène, vous pouviez certainement l'en empêcher, non?
Il m'a menacé, si je le faisais, de raconter que j'avais tripoté une des collégiennes. Vous êtes au courant de tous ces scandales à la BBC en ce moment, avec ces gens qui sortent de l'ombre pour dire qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles. Ce genre de rumeur vous colle au basque. Pas question de courir le risque. Je ne mettrai plus jamais en scène un de leurs spectacles.
Qu'est-il arrivé au dernier metteur en scène?
Il est décédé d'une crise cardiaque.
On m'a rapporté que vous aviez eu une dispute enflammée avec Burt, dit Agatha avec prudence. C'était à propos de cette histoire de calomnie ?
Oui.
Vous n'avez pas menacé de le tuer ou quelque chose dans ce goût-là ?
Si.
Vous comprenez pourquoi je tiens tellement à ce que vous découvriez l'assassin.
Je ferai de mon mieux. Sachez que les crimes sont le plus souvent commis par l'entourage immédiat de la victime.
Oubliez ça, répliqua Garrett en rougissant. Gwen Simple est une sainte et le fils un garçon poli et discret.
Vous connaissez bien la famille ?
J'ai rencontré Gwen avant son mariage. Je lui aurais bien proposé de m'épouser, mais j'étais moi-même mariée à l'époque et Burt a sauté sur l'occasion.
Rien à attendre de lui, songea Agatha. Apparemment, il en pince encore pour Gwen.
Je crois qu'il est temps que vous me présentiez le forgeron, conclut-elle. Je vais chercher mon manteau.
Le forgeron était occupé à ferrer un cheval.
On ferait mieux d'attendre qu'il ait fini, dit Garrett. Autrefois, on avait un maréchal ferrant au village, mais il est mort il y a quelques années. Harry a alors ajouté cette corde à son arc.
Agatha et Garrett étaient dans l'atelier, assis sur deux chaises abîmées. Tout autour d'eux, des rampes, des portails, des grilles et autres pièces en fer forgé. Un pâle soleil d'hiver jetait ses maigres rayons par la porte ouverte. Dehors, dans la cour, les poules picoraient avec des gloussements évocateurs qui n'étaient pas sans rappeler un grincement de grille. Harry avait paré le sabot et s'apprêtait à le ferrer.
« Je me demande ce que ça fait, » s'interrogea Agatha, « d'exercer un travail manuel et de ne jamais avoir à se triturer les méninges pour savoir qui a tué qui. »
« Ça me surprend que le cheval se montre aussi patient, » dit Agatha.
Ça ne lui fait pas mal. C'est comme une manucure, répondit Garrett.
Enfin, le forgeron eut fini.
C'est pourquoi ?
Demanda-t-il. Garrett lui présenta Agatha. L'imposante silhouette de Harry se dressa au-dessus d'elle, menaçante.
Écoutez, dit-il. Trouvez celui qui a tué Burt, que j'aille serrer la pince du gars. Le monde se portera mieux sans lui.
Mais quelle horrible façon de mourir, objecta Agatha.
Ouais. Ce qui s'est pris dans les couilles, bien fait pour lui. L'avait une chouette bourgeoise, alors pourquoi se taper la moitié du village ?
Vous avez des noms ?
Pas mon genre de remuer la merde maintenant que ce sale type est mort. Peut-être détective, non ? Trouvez toute seule.
Une femme fluette emmitouflée dans un manteau en tweed miteux entra dans le hangar avec une flasque et un mug.
Je t'apporte ton thé, Harry.
Pose ça sur l'établi et fous-moi le camp !
Elle détala la tête basse.
J'aimerais la voir seule, songea Agatha. La femme avait pleuré.
« Alors, vous attendez quoi ?»
grogna le forgeron.
« C'est là qu'il travaille, » dit Agatha, une fois dehors. « Mais où habite-t-il »
« À l'arrière, c'est leur maison. Mais à votre place, je n'irai pas. Si Harry vous surprend, ça va le mettre en rage. »«
Allez, un peu de courage !» s'impatienta Agatha.
« À vrai dire, j'ai un tas de choses à faire. »
Garrett battit en retraite sous le regard furieux d'Agatha. Elle redressa les épaules et contourna le hangar. La maison du forgeron était une simple bâtisse en briques rouges, avec une porte éraflée, comme si quelqu'un avait régulièrement tenté de la défoncer. Les cadres des fenêtres auraient eu besoin d'un bon coup de peinture. La porte était ouverte. Agatha frappa doucement, puis cria
« Y a quelqu'un ?»
La silhouette de Mrs. Crosswiz se détacha dans la pénombre. Elle s'était débarrassée de son manteau et portait un tablier taillé dans un vieux sac de jute. Depuis sa tignasse embroussaillée jusqu'à ses souliers usés jusqu'à la corde, elle était la parfaite illustration de la misère rurale telle qu'on la voit sur les photos des années 1940. On devinait sous son visage fané la jolie femme qu'elle avait dû être. Sur sa joue, un bleu qui virait au violet.
« Votre mari vous bat ?»
demanda Agatha sans réfléchir. Une main rougeaude s'éleva pour cacher la trace du coup.
« Juste quand il a bu un coup de trop ?» dit-elle d'un ton lugubre.
« Vous avez des enfants ?»«
Non. »«
Dans ce cas, on va vous trouver un refuge pour femme battue. Rien ne vous oblige à subir ça. »« Laissez-moi, Harry, tranquille !»
hurla-t-elle.
« Au lieu de fourrer votre nez dans nos affaires, vous n'avez qu'à vous trouver un homme !»
Agatha se retourna écœurée. Une poignée de terre vint la frapper à la nuque. Elle pivota sur ses talons, ramassa la motte et la renvoya violemment à la femme du forgeron qui se la prit en pleine figure. Agatha courut à sa voiture et démarra aussi vite que possible. Elle s'arrêta un peu plus loin, coupa le contact et commença à retirer la terre qu'elle avait dans les cheveux. On cogna à la vitre et elle sursauta, s'attendant presque à apercevoir le visage furibond du forgeron. Mais c'était Charles Fraisse, tout sourire.
Agatha abaissa la vitre.
Tu t'es roulé dans la boue avec un gars du coin ?
Demanda-t-il. Non, j'ai juste été agressée par la femme du forgeron. J'ai une furieuse envie de gras. Je vais au McDo le plus proche.
Charles contourna le véhicule et s'installa dans le siège passager.
Le McDo le plus proche est à Evesham,
l'informa-t-il. Pas grave, grommela Agatha en mettant le contact. Une fois là-bas, je te raconterai tout.
C'est un peu comme le sexe, dit Charles en s'essuyant les doigts après avoir englouti un Big Mac. La réalité n'est pas à la hauteur de l'attente.
Tu veux parler du sexe avec moi ? Aurait voulu demander Agatha. Comme elle redoutait la réponse, elle préféra raconter à Charles le peu qu'elle savait de l'affaire. Un morceau de terre oublié dans sa chevelure tomba sur la table. Une serveuse s'empressa de la nettoyer d'un coup de chiffon.
« Pourquoi la femme du forgeron t'a-t-elle balancé cette poignée de terre ?»«
Je crois que c'est une de ses martyrs, » répondit Agatha d'une voix amère. « Je parie que si j'arrivais à la faire sortir de là et qu'elle obtenait le divorce, elle se remettrait tout de suite avec le même type d'homme. C'est une de ses victimes nées, tu vois le genre ? Inspirer la compassion, c'est comme une drogue pour elle. Pour moi, c'est le forgeron qui a fait le coup. C'est lui qui a installé la trappe.
Si je m'en remets à ce que tu racontes, le village entier est suspect. Pourquoi ne pas mettre Tony sur le coup avec toi ?
Agatha réfréna un mouvement de jalousie. Oui, un peu d'aide ne me ferait pas de mal. Tu crois que je pourrais aller voir la veuve à présent ?
C'est le moment ou jamais. Mais je te préviens, elle est sûrement entourée de voisins serviables qui ne nous laisseront pas l'approcher.
Quand ils quittaient Evesham, le ciel avait pris une teinte gris plomb.
On dirait qu'il va neiger, dit Charles.
Et puis quoi encore ? Tu n'as pas entendu parler du réchauffement climatique ?
Ça ne concerne que le pôle Nord. Les dieux du climat continuent de veiller sur les Cotswolds.
Agatha longea la rue principale de Winter Parva et s'arrêta brusquement dans un crissement de pneus.
Qu'est-ce qui se passe ?
Demanda Charles. Regarde, la boulangerie est ouverte.
Ils ont dû engager quelqu'un.
Je vais quand même aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve jamais une place pour se garer dans ces villages ?
Il y en a une juste là.
Oublie, il me faut une place de la taille d'un camion.
Laisse-moi le volant, je vais le faire.
Une fois la voiture garée dans les règles de l'art, ils sortirent du véhicule et entrèrent dans la boutique. Un jeune homme, grand et mince, au visage expressif, était occupé à servir les clients, assisté par une fille petite et potelée, aux joues bien roses. Agatha et Charles s'approchèrent du comptoir, sans se presser.
« Vous êtes Walt Temple ?»
risqua Agatha.
« Oui.
Mes condoléances pour le décès de votre père.
Vous désirez ?»
Agatha Raisin, détective privée, j'ai été engagée par Garrett Craven pour trouver l'assassin de votre père. Pourrais-je m'entretenir avec votre mère ?»
Maman est dans l'arrière-boutique, elle fait une pause.
Il souleva la partie rabattable du comptoir. Allez-y. Agatha et Charles le suivirent, passant devant des fourneaux étincelants jusqu'au petit salon où Gwen était assise buvant son thé. L'épouse du boulanger paraissait tout droit sortie d'un tableau du Moyen-Âge. Ses cheveux blonds, relevés en un chignon à l'ancienne, brillaient dans la lumière ambrée de la lampe de table posée près d'elle. Elle avait le teint diaphane, le nez long et fin, les yeux marrons sous des paupières un peu tombantes, et des mains très blanches aux doigts effilés. Elle portait une longue robe en laine vert et doré.
« Maman, » dit Walt, « cette dame est détective, il faut que je retourne à la boutique. »«
Vous permettez qu'on s'assoie ?» demanda Agatha. Gwen hocha la tête.
« Je vous présente mon collègue, Charles Fress. »
« Je suis Agatha Raisin. Nous sommes sincèrement désolés pour la mort de votre mari. Avez-vous une idée de qui aurait pu commettre cet acte épouvantable ?»«
Non.
Vous prendrez bien une tasse de thé ?» Fasciné, Charles observait Gwen pendant que de ses délicats doigts blancs, elle mettait le thé dans la théière avant d'y verser l'eau frémissante qu'elle venait de faire chauffer sur une cuisinière en fonte. Ses gestes avaient quelque chose de gracieux, à croire qu'elle effectuait une sorte de danse du thé. À peine eut-elle disposé théière, tasse et soucoupe sur la table en bois brut, qu'elle alla chercher, dans le réfrigérateur, une assiette de buns fourrée à la confiture de fraises et glacée au sucre.
« Il faut que vous goûtiez ça, »
dit-elle avec un discret accent du Gloucestershire. « C'est de la confiture faite maison. » Charles, qui n'aimait généralement pas les sucreries, se servit apparemment envoûté.
« C'est un délice !»
Gwen lui décocha son plus beau sourire.
« Mrs. Raisin ?
Non, merci. Je surveille ma ligne. » les pensées se bousculaient dans la tête d'Agatha. Rien dans l'atmosphère de la maison qui suggéra le deuil. D'un ton brusque, elle lança « Est-ce que votre mari vous manque ?» Gwen haussa ses sourcils fins et bien dessinés. Agatha se sentit soudain grossière et maladroite. « Bien sûr, » dit Gwen. « Mais c'est si atroce que j'ai du mal à réaliser. Alors Walt et moi faisons comme si de rien n'était. Je serai soulagée quand on nous rendra le corps et qu'on pourra véritablement faire notre deuil. » Qui aurait bien pu vouloir assassiner votre mari ?
Personne, à ma connaissance. Bart était aimé et respecté de tous.
Mr. Crosswiz affirme que votre mari avait des aventures. L'espace d'un instant, Gwen avait fermé les paupières. Elle les rouvrit, fixant Agatha droit dans les yeux.
Je vous prie de vous en aller. Vos propos m'ont contrarié. Il n'y a rien de pire que la médisance.
Nous sommes vraiment désolés, insista Charles. Mais ces questions déplacées, nous sommes bien obligés de vous les poser.
Je ne veux pas en entendre davantage. Elle se leva. Charles lui prit la main.
Si nous pouvons faire quoi que ce soit.
Elle esquissa un sourire. Je vous le ferai savoir. À vous uniquement, Charles.
Lui tendit à Gwen sa carte de visite et entraîna Agatha vers la sortie.
Surtout pas un mot avant qu'on soit dans la voiture, dit-il à cette dernière entre ses dents. On dirait que tu vas exploser.
Elle est fausse jusqu'au bout des ongles, s'exclama Agatha dès que Charles se fut installé au volant. Je parie que c'est elle qui a fait le coup.
Comment aurait-elle pu maîtriser les aspects techniques ? Ben, il y a une chose que je peux te dire. La belle dame sans merci est le genre de femme pour qui la plupart des hommes seraient prêts à tuer.
La quoi ?
Un poème de John Keats qui parle d'un chevalier séduit par une fée.
Gwen n'est qu'une banale femme au foyer, dit Agatha jalouse.
Honnêtement, Aggie, on dirait qu'elle sort d'une tapisserie médiévale.
Tout de même, Charles, reconnaît que son absence de chagrin est très louche.
Face à un choc, chacun a sa manière de réagir.
Toi, tu es mordu, est-ce qu'on dirait ?
Charles eut un grand sourire.
Tu es envieuse parce qu'elle fait de la confiture de fraises et des gâteaux quand tu te contentes de faire réchauffer des trucs au micro-ondes.
Je suis sûre que c'est son fils qui fait les buns et que la confiture est confectionnée par quelqu'un du coin. Je ne crois pas un seul mot de ce que dit cette femme.
T'inquiète, Agatha, j'aurai bientôt de ses nouvelles.
Tu ne te montrais pas un peu la tête ?
Pas le moins du monde. Elle va regarder ma carte, voir que je suis un sœur, et puis elle me cherchera sur Internet et elle verra que je ne suis pas mariée. Quitte à se remarier, elle va vouloir ce qu'il y a de mieux pour son fils. Allons interroger quelqu'un d'autre. « Regarde, il neige !»
De minuscules flocons tourbillonnaient dans l'air alors que les lampadaires s'allumaient dans la triste pénombre de cette fin d'après-midi.
« Je n'aime pas quand la neige a l'air de monter au lieu de tomber, » fit remarquer Charles. « Les températures ont dû drôlement baisser. »«
Je vais appeler Garrett pour qu'il me donne le numéro de Bessie Burdock, » dit Agatha. « Elle jouait la mère Bard. »
Bessie Burdock habitait un logement social dans un lotissement situé, comme toutes les habitations de ce type, à la sortie du village. La plupart des maisons avaient été rachetées par leurs habitants. Pimpante construction de pierre, elle comportait deux étages et était dotée de jardinets bien entretenus, ou du moins ce qui y ressemblait sous la couche de plus en plus épaisse de neige. La porte leur fut ouverte par Bessie, une femme très corpulente. Depuis l'intérieur, des cris d'enfants parvenaient aux oreilles de Charles et d'Agatha. Cette dernière expliqua qui ils étaient et ce qu'ils voulaient.
« Entrez, » dit-elle. « Je vais demander à mon Effie de faire taire les petits. Effie, emmène-les dans le jardin et fais-leur faire un bonhomme de neige. »«
Ok, maman, mais ces bâtards commencent à me gaver !»
répondit une ado tatouée de la tête aux pieds et vêtue à la mode gothique. Bessie les fit entrer dans un séjour coquet.
Ces enfants qu'on entend, ils sont tous à vous ?
Bon Dieu, non ! Je garde des gamins jusqu'à ce que leurs parents soient revenus du boulot.
Agatha trouvait que Bessie ressemblait pour de bon à la mère Hubbard. C'était une femme très forte avec une tête ronde, un triple menton et une poitrine énorme.
C'est de Berthe que vous voulez me causer, pas vrai ?
Si c'est pas affreux de mourir comme ça, sûr que le meurtrier est un cinglé.
Vous l'aimiez bien ?
Non, je plaignais Gwen, sa femme. Une grosse brute, voilà ce qu'il était. Un super boulanger, cela dit. Il y en a qui étaient prêts à faire des kilomètres pour acheter son pain.
Il avait des maîtresses ? Demanda Agatha.
Il y a des bruits qui couraient, rien d'autre.
Personne n'a jamais été sûr de rien. Mon nez-fil détestait.
Pourquoi ? Il lui a fait des avances ?
Non, mais il lui balançait des insultes à la figure dans High Street. La nuit des morts vivants qu'il l'appelait. Le gothique, c'est juste une face, ça lui passera. À ce qu'il se raconte, c'est Gareth Craven qui aurait fait le coup.
Pourquoi ? Demandèrent Charles et Agatha d'une même voix.
Il a toujours eu un faible pour Gwen. Pendant un temps, il voulait l'épouser. Et puis quand elle s'est mariée avec Bert, il est parti et s'est trouvé quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas marché.
Il s'est marié avec qui ?
Avec une fille qui bossait à la BBC. Elle se plaisait pas ici au village. Du temps où il était marié, Gareth vivait à Londres. Il avait gardé sa maison et il est revenu après s'être fait virer de son boulot. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à bosser sur cette opérette à Merceuster. C'est Gwen qui en est la star.
Si Bert Simple est la brute que vous décrivez, je m'étonne qu'il lui ait permis d'y participer, fit remarquer Agatha.
Je crois qu'il était fier d'elle, et c'est pas les filles qui manquaient pour la remplacer à la boulangerie.
Aucune n'a eu d'ennui ?
Non, il y en a beaucoup qui craquent pour Walt.
Je suis étonnée que la boulangerie n'ait pas fermé vu les circonstances.
Walt a dit aux gens que sa mère et lui avaient pas trouvé le meilleur moyen de surmonter leur chagrin. Ils disent que c'est ce que Bert aurait voulu.
Agatha posa encore quelques questions, moins dans l'espoir d'apprendre quoi que ce soit de nouveau que parce qu'elle rechignait à quitter la pièce douillette pour ressortir dans le froid et la neige. Enfin, ils saluèrent leur hôtesse et prirent congé.
« Retournons à notre suspect numéro un, » dit Charles.
« Qui serait ?» demanda Agatha.
« Eh bien, Gareth Craven, qui d'autre ?»